J'aurais pu vous proposer ce matin de porter un premier regard sur la lettre du pape François sur la foi, puisque cette lettre qu'on attendait vient de sortir. Elle a part derrière très probablement comme rédacteur, concepteur et rédacteur Benoît XVI, mais ce sera pour une autre fois. Je propose de terminer ce cycle sur la question de la foi ce matin par une réflexion d'un carme qui s'appelle le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui a fondé l'Institut Notre-Dame de Vie, qui se trouve dans le Vaucluse, à Vénasque, qui est un peu spécialisé dans l'enseignement par rapport à la question de la prière d'oraison. Et le sujet de cette petite réflexion, c'est la foi développée par l'oraison, affinée par l'oraison. Le père Marie-Eugène dit ceci: notre grâce du baptême est faite de deux éléments, la réalité de Dieu qui habite dans nos âmes, l'Esprit Saint, dont nous sommes les temples, d'une part, et puis un organisme surnaturel qui est déposé en nous au baptême, donc, composé des trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, et aussi des dons du Saint-Esprit, ce qu'on a appelé les sept dons, qui perfectionnent nos facultés naturelles. Donc, enfin, c'est lui qui disait ça dans un enseignement plus long, qui était une retraite, examiner ces trois vertus théologales que nous pouvons distinguer comme suit. La foi prend contact avec Dieu, l'espérance marche vers Dieu, la charité unit à Dieu. Vous avez là une perspective intéressante. Je relis ces trois verbes qui sont employés: prendre contact pour la foi, marcher avec pour l'espérance, et puis unir à Dieu pour la charité. Et ces trois vertus théologales nous permettent d'avoir donc des relations avec Dieu. On pourrait presque dire qu'elles se trouvent au début, au milieu et à la fin de cette relation. On comprend que saint Paul ait affirmé que seule la charité demeure, car notre vocation éternelle est l'union d'amour avec Dieu. Le père Marie-Eugène va donc développer quelques points là sur la foi. Un premier point: la foi prend contact avec Dieu. La foi, c'est cette vertu par laquelle nous prenons contact avec Dieu, nous adhérons à Dieu, nous adhérons à sa personne, à sa vérité. Un passage de l'Évangile illustre bien ce contact, c'est celui de la guérison de cette femme atteinte d'une perte de sang, qui vient donc toucher le vêtement de Jésus par derrière, et qui, par la foi, remporte sa guérison. Et le père Marie-Eugène commente en disant: l'acte de foi produit toujours un effet, il réalise le contact avec l'amour infini de Dieu qui se déverse, se diffuse en nous. Voilà, c'est assez simple à comprendre. La foi qui prend contact avec Dieu, qui nous permet d'adhérer à Dieu, et qui alors produit toujours un effet en nous, à cause de cette diffusion par osmose de l'amour de Dieu en nous. Une deuxième petite réflexion: la foi, la vertu de foi est greffée sur notre intelligence. La foi est greffée sur l'intelligence. Il y a une image que Dieu a donnée à Sainte Catherine de Sienne, donc une dominicaine du XIIe siècle, et qui fait bien comprendre cela. Jésus dit à Sainte Catherine que la foi est la pupille de l'œil. La foi est la pupille de l'œil. Vous vous souvenez, quand on était en sciences nat, autrefois, on avait des croquis de la découpe d'un œil avec. Et on nous montrait. Comment fonctionnait un œil. La foi est la pupille de l'œil. Je vous ai mis en note, à la fin de la page 2, le texte complet sur la pupille de l'œil. Au ciel, la béatitude. C'est un peu petit, hein. Au ciel, la béatitude de mes serviteurs consiste à me voir, à me connaître. Déjà dans cette vie, ils ont un avant-goût de la vie éternelle et ils jouissent de ce qui fait le bonheur des bienheureux. Comment ont-ils cet avant-goût? Par la vue de ma bonté envers eux, par la connaissance de ma vérité. Cette connaissance est dans l'entendement, c'est-à-dire dans l'intelligence, hein, qui est l'œil de l'âme éclairé par la foi. Et la pupille de cet œil est la sainte foi, dont la lumière fait discerner, connaître et suivre la voie et la doctrine de ma vérité, le Verbe incarné. Sans la foi, l'âme ne saurait voir. Elle est comme celui dont un voile couvre la pupille, qui est la partie lumineuse de l'œil. La pupille de l'œil de l'âme est la foi. Si l'amour propre la couvre du voile de l'infidélité, elle ne peut plus voir. Elle possède bien un œil, mais non pas la lumière dont elle s'est elle-même privée. Donc voilà cette image de la foi comme pupille de l'œil. Greffé sur l'intelligence, l'œil étant l'intelligence. L'intelligence n'est faite, dit le père Marie-Eugène, que pour le domaine créé. Elle ne dépasse pas le domaine des idées humaines, le domaine fini. L'intelligence n'adhère qu'à l'évidence rationnelle. Or, devant le mystère de Dieu, mon intelligence essaye de raisonner, mais ne comprend pas. Elle se trouve, pour ainsi dire, bloquée devant le manque d'évidence. L'intelligence n'est donc faite que pour le domaine fini. Or, entre Dieu et moi, il y a l'infini. C'est pourquoi il faut que la foi entre en action. Elle a une aptitude à franchir cet espace infini et à adhérer à Dieu. Maintenant donc que je suis arrivé au bout de l'activité de mon intelligence n'a plus qu'à se soumettre. Son dernier acte est un acte de soumission, de démission, pour ainsi dire, mais en faveur de la foi qui est greffée sur elle. Pour croire, il faut donc consentir à un sacrifice de la raison. Ce sacrifice est un geste d'humilité et de vérité devant Dieu. Par la foi, l'homme se décentre de lui-même et reconnaît qu'il n'est pas la mesure de toute chose. Ce sacrifice peut être plus ou moins ressenti suivant l'âge, la psychologie, la culture, la forme d'intelligence. L'enfant, par exemple, est de plein pied avec le mystère, puisqu'il n'a pas encore d'exigence rationnelle. Mais pour beaucoup, c'est un peu le sacrifice d'Isaac par Abraham. Pour croire et persévérer dans la foi, il faut vouloir, donc il faut aimer. Et c'est bien l'amour qui donne la force de consentir à ce sacrifice de la raison. On peut donc comparer la foi à un greffon sur un cep. Il se passe en effet ce que réalise le vigneron lorsqu'il veut greffer. Il a un cep qui a pris racine et qui a poussé. Il vient avec un sécateur, il coupe la tige presque au ras du sol et la jette. Dans le cep qui reste, il fait une entaille et dans cette entaille, il va placer un greffon, c'est-à-dire une tige de vigne d'une autre qualité, celle dont il veut avoir le raisin. Il l'attache, il recouvre de terre, il laisse pousser. La greffe va devenir la véritable tige qui va pousser progressivement. Une troisième réflexion, la foi grandit dans la prière d'oraison. Le fait que je dis « je crois », l'acte de foi que je fais, prend contact avec Dieu, adhère à Dieu, prend possession de Dieu. La foi atteint Dieu, touche Dieu, pénètre dans les entrailles de Dieu, prend contact avec l'infini. Il n'y a que la foi qui puisse avoir ce contact. Saint Jean de la Croix nous dit qu'ici-bas, la foi est le seul moyen prochain, proportionné, pour atteindre Dieu. Ce Dieu avec qui nous prenons contact est l'amour infini, et l'amour se répand, il se diffuse, il est diffusif. Par conséquent, il y aura nécessairement un effet, pas forcément sensible, mais surnaturel. La prise de contact avec Dieu va amener une augmentation de la grâce. D'où l'importance capitale et vitale de la prière d'oraison, prière silencieuse, cœur à cœur avec Dieu, abandon, adoration. Nous allons à l'oraison pour trouver Dieu, pour établir ce contact. pour faire un vase communicant avec lui. Et Dieu ne peut pas ne pas agir quand nous le touchons avec foi, une foi baignée de charité. Le vase communicant se déverse en nous, en effet, est produite une augmentation de la grâce. Il s'opère en nous une transformation intérieure, de clarté en clarté, jusqu'à la ressemblance de Dieu. La communion eucharistique, elle aussi, évidemment, est une façon de toucher Dieu, elle est plus efficace. Ici également, il y a communion. Dans la prière d'oraison, il y a communion. Et de toute façon, la foi est nécessaire pour recevoir les espèces eucharistiques. Il y a union par la contemplation. Saint Jean de la Croix dit de la contemplation qu'elle est un langage de bouche à bouche et d'esprit à esprit avec Dieu. Certes, la foi se développe dans toute forme de relation à Dieu, donc la prière, la communion eucharistique et d'autres formes encore. Mais c'est surtout dans cet exercice de vie contemplative qui est l'oraison que se fera cet affinement. Nous avons tous une vocation contemplative puisque nous sommes tous destinés à la vision éternelle de Dieu. Ça a été le grand travail du Père Marie-Eugène de désenclaver la compréhension de la prière d'oraison des spécialistes qui sont les contemplatifs pour dire tous les baptisés ont une vocation contemplative, puisque tous nous sommes destinés à la vision éternelle de Dieu. Voilà, troisième réflexion sur l'importance de la prière d'oraison pour établir un vase communicant en Dieu, et donc avec un effet surnaturel, pas forcément sensible. Et c'est sur ce point qu'on a la quatrième réflexion, c'est que l'obscurité, c'est le régime normal de la foi. L'obscurité. La foi, dit Saint Jean de la Croix, prend possession de Dieu à l'état obscur. La raison essentielle de cette obscurité provient de ce que nous n'avons pas ici-bas de connaissance directe, immédiate de Dieu. Saint Paul nous rappelle que nous cheminons non pas dans la claire vision, mais dans la foi. Tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes hors de notre demeure, loin du Seigneur, car nous cheminons par la foi, non par la vue. Ou encore, nous voyons comme dans un miroir et de façon confuse. Ce n'est pas là comme une infirmité ou une imperfection de notre foi que nous pourrions corriger avec des lunettes, par une plus grande ferveur par exemple, ou par une prière plus intense. Ce n'est pas une infirmité ni une imperfection. C'est notre situation de créature voulue par Dieu. L'obscurité ne relève pas d'abord de la médiocrité de la foi, mais de la nature même de la foi. Fondamentalement, constitutivement, l'obscurité de la foi fait partie de la foi. Plus tard, nous aurons la lumière de la gloire pour voir Dieu face à face. Mais cette lumière de la gloire qui nous manque est actuellement remplacée par la foi, instrument parfait en lui-même, mais déficient parce qu'il ne dissipe pas l'obscurité. C'est important, ça, comme compréhension. Ça dissipe bien des équivoques. Vous avez là une note 2 avec une citation de Saint Jean de la Croix, qui est donc le réformateur du Carmel, 16e siècle, Saint Jean de la Croix, qui dit ceci: « Plus les choses divines sont claires et manifestent d'elles-mêmes, plus elles sont naturellement obscures et cachées à l'âme. C'est comme la lumière, plus elle est vive et brillante, plus elle éblouit et aveugle le hibou, excusez de la comparaison, et comme plus quelqu'un regarde fixement le soleil, plus il se couvre les yeux de ténèbres à cause de l'excès des rayons qui le frappent et de la fatigue de sa vue. Ainsi, lorsque la lumière divine de cette contemplation entre dans l'âme, qui n'est pas encore bien éclairée, elle répand sur elle des ténèbres spirituelles qui la privent de son intelligence naturelle. Pour cette raison, Saint Denis et les autres théologiens mystiques appellent la contemplation infuse des rayons de ténèbres à l'égard de l'âme qui n'est pas purifiée et illuminée parce que l'excessive lumière de cette contemplation surpasse et éteint les forces naturelles de l'entendement. Très, très important ceci. Très important. Donc nous revenons à notre réflexion où le père Marie-Eugène disait « C'est la nature même de la foi d'être obscure. La foi est un instrument parfait en lui-même, cependant déficient parce qu'elle ne dissipe pas l'obscurité. » Mais attention, l'obscurité ne fait pas de distance. Très important aussi, la différence entre la foi et la vision face à face, c'est une question de lumière, de bouton électrique. Je suis en Dieu maintenant par la foi, je le touche, mais je ne le vois pas. Avec la lumière de la gloire, je tourne le bouton. Le bouton est tourné et je vois. Mais le contact n'est pas plus intime. Le contact n'est pas plus intime, pour ainsi dire, par la lumière de la gloire que par la foi. À condition évidemment qu'il y ait le même degré de charité. À condition évidemment qu'il y ait le même degré de charité. La seule déficience de la foi, c'est d'être obscur. C'est une possession de Dieu à l'état obscur. Elle ne donne pas nécessairement à mon intelligence la lumière claire qu'elle attend. Donc, ce n'est pas parce que je touche Dieu que je dois ressentir Dieu. Ressentir par mon intelligence ou par ma sensibilité. Ne soyons donc pas déconcertés si dans l'oraison, nous restons dans l'obscurité. Ne disons pas, si mon oraison était bonne, je trouverais Dieu, j'aurais des lumières. C'est peut-être justement parce que nous le trouvons que nous n'y voyons rien. Paradoxal, n'est-ce pas? Dans l'oraison, parce que je prends contact avec la foi, l'effet de la lumière naturelle pour mon intelligence n'est pas nécessairement produit. Normalement même, il ne l'est pas. Pour adhérer, il faut simplement soumettre son intelligence et dire « Mon Dieu, je crois sans voir ». Ne confondons pas non plus sentiment avec foi. Le sentiment n'est pas nécessaire. Dans l'oraison, il ne s'agit que d'une adhésion de notre vertu de foi à ce mystère de Dieu, sous l'action de notre volonté, et c'est le seul moyen. Ne confondons pas lumière avec foi, ou sentiment avec foi. Entre parenthèses, tout ça, ça vous explique très bien pourquoi souvent on a parlé des distractions dans la prière, ou que les gens se plaignent d'avoir des distractions dans la prière, parce qu'ils voudraient que la foi leur donne une lumière qui les unifie et qui supprime au fond le ronron de l'imagination qui continue à se déployer. Mais c'est pas à ce niveau-là que la foi va donner un résultat en nous, c'est beaucoup plus profond. Donc on demeure avec ce problème, cette difficulté des distractions, d'une sorte d'éclatement qu'on sent en nous, il y a un manque d'unité profond. Mais n'empêche que par la foi, la lumière de Dieu agit fortement, mais à l'état obscur, parce qu'elle est trop forte pour nous, pour notre raison, pour notre intelligence. Enfin, pour terminer, nos contacts avec Dieu ont la qualité de notre foi. La foi est l'instrument. L'instrument est-il affiné? Je pénètre profondément en Dieu. Ma foi, au contraire, est-elle un peu grossière? Je n'y pénètre pas. C'est pourquoi il faut développer notre foi par l'oraison et l'alimenter par l'étude. À mesure que ma foi se développe, elle a besoin d'être alimentée par ses racines, que sont les sens qui puisent dans la vérité révélée, à travers les lectures, par l'œil, à travers l'audition de prédications, les oreilles. Si je mène une vie d'intimité avec Dieu, il faudra que j'étudie de plus en plus pour assurer une alimentation puissante à cette base de départ de ma foi. qui se trouve dans la connaissance de la vérité révélée, de la parole de Dieu et de l'enseignement de l'Église. Voilà, ça vous explique aussi que, comme de nombreux chrétiens n'étudient jamais, on reste vraiment en jachère, ben, il n'y a pas non plus de possibilité d'approfondissement de la foi, de croissance spirituelle. Car la vigueur et la pénétration de notre foi détermineront la qualité de nos relations et notre intimité avec Dieu. Il faut donc que ma foi soit forte et vigoureuse. Avoir une foi développée et affinée est donc, pour ainsi dire, la meilleure et la plus grande richesse que nous puissions trouver ici-bas. Pour moi, cet enseignement est tout à fait capital. Tout à fait capital. Il est dû donc au grand docteur mystique du Carmel, Saint Jean de la Croix, monnayé par Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Et il y a là une explication assez simple de l'importance de la prière d'oraison pour muscler la foi. Le fait de rester pendant un quart d'heure, une demi-heure en prière silencieuse devant Dieu, en posant un acte de foi simplement en lui, fait que, voilà, par diffusion, il va agir en nous très profondément, sans qu'on ressente rien et sans qu'on voit rien. C'est ça la difficulté, et qui est une difficulté qui nous décourage le plus souvent, parce qu'on dit, bah, pff, c'est rasoir, et puis voilà, c'est sec, c'est désagréable, ça n'apporte rien, on a l'impression que ça n'apporte rien. Et c'est une erreur d'optique, si on peut dire, puisque, au fond, c'est au contraire, on en ressort au contraire avec une foi plus vigoureuse, et on pourra le voir et le comprendre à la qualité aussi de la charité qu'on pourra déployer dans la vie ordinaire. Plus on prie, plus aussi la foi et la charité se développent, donc plus on aura de possibilité d'aimer son prochain dans la vie ordinaire. Donc l'importance de consentir à des temps d'oraison silencieuse.